Casier, réalisé par Hubert Renard.
Alors c'est une œuvre qui me semble faire à peu près 2 mètres de haut, toute noire, presque un meuble, avec deux pieds noirs et en haut des cases, comme si c'était des cases pour mettre des livres. Voilà la description que je ferai. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Est-ce que tu reconnais ton œuvre ou tu en parlerais différemment?
J'en parlerais différemment, mais je la reconnais très bien.
Comment tu en parlerais alors?
C'est-à-dire que je pense que moi, je regarderais moins le meuble lui-même que ce qui l'entoure, qui sont à côté du meuble, qui sont son cartel, le classeur qui est sur une petite étagère et les quelques cadres documentaires qui sont autour. Mais moi, j'ai un peu tendance à faire plus attention aux petits détails qu'à la grosse chose qui est au milieu. Et je vais plus souvent sur les cartels que sur les œuvres quand je vais au musée. Et voilà. Et l'objet que tu as décrit, c'est très juste. C'est une sculpture qui ressemble étrangement à un meuble. Elle s'appelle Casier. Donc, son titre confirme le fait que c'est quelque chose de l'ordre du mobilier. Bon, en même temps, pour y ranger des livres, il manque des rayons en bas. Enfin, on se demande bien pourquoi. Il y a un truc qui va pas quand même. Par contre, ce qui est pour moi la chose intéressante, la chose qui moi m'intéresse et la chose qui est peut-être pas ce qu'on voit en premier lieu, c'est ce discours qui est derrière, tout son commentaire qui est exposé sur le mur, à côté, mais qui fait partie intégrante de mon travail.
Alors, comme je ne l'ai pas décrit, qu'est-ce qu'elle apporte, cette partie d'à côté?
Eh bien, assez rapidement, même quelqu'un qui est devant cette pièce pour la première fois va comprendre que, en réalité... Alors, le cartel nous dit c'est une reconstitution d'une œuvre disparue. Donc là, les choses s'éclaircissent un petit peu. C'est qu'on n'est donc pas devant une œuvre, mais devant une reconstitution. Donc ça change déjà le statut de l'objet. C'est plus une sculpture, c'est une reconstitution d'une sculpture. Donc elle glisse doucement du statut d'œuvre d'art à un statut de document. Et puis ce qui l'entoure, c'est tout du document. Donc ça va être du document photographique, il y a des cartons d'invitation au vernissage. Et donc, en fait, on nous raconte l'histoire de cette œuvre avant sa disparition. Et l'intérêt pour moi, c'est un peu de perturber le regardeur entre l'objet qui s'affiche et son histoire, puisqu'en réalité, cet objet a disparu. Il n'existe plus.
Mais là, d'ailleurs, tu réussis, parce que je suis un peu perdu. Donc, donc est-ce que c'est une marque de fabrique que d'avoir cette exposition qui n'en est pas une, une histoire qui raconte une exposition qui a disparu? C'est ça? Ça participe de ce que tu crées?
Oui, tout à fait. C'est même parmi les premières fois depuis que je travaille où j'ai des objets. Ouais. Parce qu'en réalité, mon travail consiste depuis des années à fabriquer l'archive d'une œuvre, ouais, d'un artiste qui s'appelle comme moi Hubert Renard, ouais, mais qui n'a pas vécu exactement à la même époque que moi. Il est un peu plus âgé. D'accord. Ce qui est intéressant parce qu'il a pu rencontrer des gens que moi, je n'ai pas eu l'occasion de connaître.
Tu peux dialoguer avec ces gens-là. Alors.
Voilà, oui. Et puis, il a été contemporain d'œuvres qui m'intéressent pas mal. Et puis c'est bien, comme ça on peut aussi jouer avec l'histoire de l'art, quoi. Et voilà, tout mon travail consiste à être dans cette autre chose de l'art qui est sa documentation, son archive, son commentaire, les histoires qu'on raconte autour, et où en fait ma proposition, c'est de dire que ça fait partie intégrante du travail de l'art.
Et ce personnage, il existe depuis longtemps, ou il n'existe pas depuis longtemps, mais c'est le même qui dure depuis longtemps?
Oui, mais alors par contre, comme on est deux, en fait, alors des fois je parle de lui à la troisième personne, des fois à la première personne. Lui s'est arrêté. Depuis 98, on ne sait pas ce qu'il fabrique. Et moi, j'ai décidé de pas le faire mourir ou pas décider qu'il ait pris sa retraite quelque part à l'autre bout du monde. On ne sait pas. Donc, en fait, son histoire s'est arrêtée pour l'instant, et je travaille, moi, avec les archives existantes, mais en fait, y a énormément de possibles à faire avec des archives et des directions différentes à exploiter. Par exemple, là, je viens de publier le catalogue raisonné de l'œuvre d'Hubert Audard de 1969 à 1998, puisque ça, on a. Et ce qui me permet, du coup, de travailler sur la notion de catalogue raisonné, qui est quand même une chose que je trouve magique et un petit peu troublante, qui est la totalité du travail d'un artiste dans un livre, qui, moi, m'interroge franchement, quoi.
Et alors, est-ce que tu te nourris de ton temps, quand même? Si ça a arrêté en 98, donc il y a eu une finale en 98, mais bon, il y a eu d'autres choses dans le monde depuis, et donc comment tu fais vivre ces archives? Est-ce que, en fait, elles peuvent être un peu décalées, parce que le temps a passé? Comment tu joues avec ça?
Elles miment l'époque, mais c'est pas une époque si lointaine non plus. Donc ça aussi, ça joue en ma faveur, c'est-à-dire qu'en réalité, certains éléments, oui, sont datés, et même il faut jouer avec les caractères de l'époque. C'est-à-dire, par exemple, quand je fais un carton d'invitation au vernissage, il faut aller voir la typo qui était utilisée à ce moment-là, enfin le type de typo, le type de mise en page. Donc c'est à la fois un travail d'archéologue, mais sur une période assez récente, en fait, et en même temps, c'est tellement récent que je peux l'alimenter de ce qui se passe aujourd'hui, de mon vécu à moi contemporain, sans problème. Ça va. Donc du coup, c'est entre nous deux, c'est des allers-retours permanents.
Et est-ce que il a une vie, il a une famille, tu es rentré dans ce niveau d'imaginaire, si je peux me permettre, ou pas, ou il est resté juste un homme qui a produit des œuvres, qui a disparu, et ainsi de suite?
Il y a très très peu d'éléments biographiques et intimes. Mais ça, c'est volontaire, c'est un truc que j'avais remarqué quand j'étais étudiant. Je me disais, mais c'est fou, parce que finalement, une rockstar, on sait toute sa vie privée. Un comédien, on sait beaucoup de choses de sa vie privée, et un artiste, on sait rien. Comme si le monde de l'art voulait pas savoir ce qui se passe dans la vie privée. Et puis, et c'est assez vrai, vous regardez un catalogue de monographie d'un artiste, on a des éléments de biographie, mais finalement pas, c'est pas ce qui intéresse le plus, la monographie d'artiste. Et après, je me suis intéressé à d'autres choses qui sont des subtilités de langage dans les biographies et les monographies, et notamment les espèces de choses qu'on glisse, les informations privées qu'on glisse discrètement pour nous faire savoir que il est dans telle situation. On va pas nous dire il est très riche, on va nous dire il a un domaine ou Et il y a une subtilité de langage qui permet de faire passer quelques informations de la vie privée. Je me suis amusé à faire une biographie. J'appelle ça les biographèmes, qui sont en fait un texte, ces textes de biographie qu'on trouve aux entrées et aux sorties d'expo, qui est calqué sur ce langage un petit peu ambigu, un petit peu où on reste sur la surface de la vie de l'artiste, mais en réalité, il y a quelques petites indications très ciblées.
Donc, je ne sais pas s'il y a un visage sur cet artiste.
On ne sait pas à quoi il ressemble.
On ne sait pas à quoi il ressemble.
On a une seule photo de lui qui a été publiée à plusieurs endroits et dont j'ai fait la couverture du catalogue raisonné, mais d'accord, c'est une photo de lui enfant. Ouais. Voilà. Non, sinon, on n'a aucune photo de lui.
Et est-ce que, alors pour en guise de dernière question, j'ai envie de dire, est-ce que tu entends parfois les personnes qui viennent à une exposition ou dans un silo, dans une fondation comme ça, ou dans une collection, et est-ce que tu écoutes leurs commentaires? Est-ce que tu rentres en discussion avec eux?
Alors, c'est un travail qui a une lecture compliquée, parce qu'il y a plusieurs niveaux de langage, et c'est des œuvres, que ça soit celle ici au silo, ou mes livres, ou mes différentes pièces, qui ont plusieurs niveaux de langage, et donc qui ont des modes de réception variables. Et quand je suis là, c'est très différent, parce que, notamment, je suis un tout petit peu plus jeune, physiquement, que devrait être l'artiste. Donc déjà, ça pose un décalage, et puis j'ai un mal fou à rester dans le rôle de l'un ou de l'autre. Donc je passe de l'un à l'autre, ce qui fait que les gens se disent c'est un grand schizophrène, grand malade, ou ils ne comprennent pas. Mais en même temps, c'est souvent une indication très forte de la dimension fictive du travail et aussi de ce en quoi ce travail nous parle aujourd'hui, de la question de l'objet d'art, comment on l'expose, comment on le diffuse, comment on l'appréhende.
Ok, et ben merci beaucoup.
Merci.
Bonne continuation.